La veille au soir, on était en famille en train de dîner et le lendemain matin, on apprend, suite à un examen, que notre enfant a une maladie grave.
Parmi les éléments qui sont des éléments communs, c'est cet élément de vigilance permanente.
L'écoute, la compréhension, l'empathie, tout ça, c'est des mots qui sont ultra importants.
En France, les aidants, ce sont entre 8 et 11 millions de personnes. Parmi eux, beaucoup d'actifs et statistiquement, un nombre non négligeable d'aidants dans votre entreprise. Dans cet épisode, nous nous demandons comment permettre aux aidants de concilier le mieux possible leur vie professionnelle et leur situation d'aidant. Pour cela, nous échangeons avec Gwenaëlle Tual, présidente de l'Association française des aidants. Nous discutons avec Bruno Vialard, directeur talent et culture chez Alptis. Et puis nous nous entretenons avec Sébastien, devenu aidant le jour où un cancer pédiatrique a été diagnostiqué chez son fils. Avec eux, nous nous attachons à décrire ce qu'est le quotidien des proches aidants et quels sont leurs besoins au quotidien. Nous réfléchissons à des clés aussi qui permettraient de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle lorsqu'on est aidant. Vous écoutez Mieux, le podcast qui interroge le monde du travail. Lorsqu'on parle d'aidant ou de proche aidant, la définition n'est pas toujours claire. Gwenaëlle Tual, présidente de l'Association française des aidants, a accepté de clarifier les choses pour nous.
Proche aidant, si à la fois je me base sur les expériences de vie et la définition européenne, eh bien, ça peut être vous qui accompagnez un conjoint qui a un cancer, vous encore qui êtes le parent d'un enfant en situation de handicap, vous encore qui accompagnez votre mère qui habite à 200 km et qui est très avancée en âge avec peut-être une maladie de Parkinson, une difficulté à la mobilité, ou encore vous qui accompagnez un voisin toutes les semaines et qui a besoin d'aide en raison, par exemple, d'une sclérose en plaques. Donc, la définition européenne, elle définit les proches aidants comme une personne qui vient en aide à une autre personne de son entourage à titre non professionnel, et cette personne, effectivement, elle lui vient en aide en raison d'une situation de maladie, de handicap, d'avancement en âge pour lequel elle aura besoin d'aide pour les activités et les gestes de la vie quotidienne. Donc c'est une aide régulière qui peut être prodiguée de façon permanente ou pas, pendant quelques mois, quelques années, décennies, et qui peut prendre plusieurs formes: le soutien moral, la vigilance permanente, les démarches administratives, la coordination des différents professionnels qui peuvent intervenir au domicile comme dans les établissements, et puis l'aide aux soins, à la dispensation par exemple de médicaments.
Sauf que cette définition, si on ne l'a pas toutes et tous en tête, c'est qu'il y a une raison.
Est-ce que cette définition, il y en a des différentes dans les textes de loi français? Oui, et notamment parce que les principales définitions en France n'intègrent pas l'entourage des personnes malades. À l'heure actuelle, la définition qui est un peu la définition de référence, c'est une définition qui est dans le Code de l'action sociale et des familles et qui définit les proches aidants de personnes âgées, de personnes en situation de handicap et selon certaines conditions. Sauf que dans la vie, ça n'est pas mis dans des cases comme ça. Donc par exemple, si vous accompagnez une personne de 30 ans qui a un cancer, peut-être au début de cette maladie, vous n'êtes pas concerné par cette définition. Vous accompagnez par exemple quelqu'un qui a une sclérose en plaques, pareil, au début, peut-être de son parcours de soins, vous ne rentrerez pas dans cette définition non plus. Donc en fait, il y a tout un tas de situations de vie qui sont à l'heure actuelle exclue de cette définition, et elle est importante, cette définition, parce que derrière, c'est souvent à elle qui est fait référence pour regarder les périmètres d'éligibilité de tel ou tel dispositif.
Et dans les entreprises alors, comment ça se passe quand on est proche aidant? Et est-ce que la vision que l'on a des proches aidants évolue avec les années? Nous avons posé la question à notre invité.
Le constat qu'on peut faire, selon qu'on le regarde, on va dire avec l'image du verre à moitié plein ou à moitié vide, il va être nuancé. Le verre à moitié plein, c'est que finalement, en entreprise, à l'heure actuelle, la compréhension des situations des salariés qui sont aidants n'est pas la même qu'il y a 10 et 15 ans. Il y a eu des progrès qui sont notables, alors au niveau d'éléments, on va dire, plus culturels, de compréhension des situations, d'initiation de dialogue. Il y a eu des éléments de progrès au niveau des conventions, des dialogues aussi avec les forces syndicales, des éléments de progrès sur les congés légaux et extra-légaux qui ont été mis en œuvre, et des progrès également sur des dispositifs infrastructures. Si on regarde cette fois-ci du côté à moitié vide, bien on se rend compte que pour procéder à un changement culturel de grande ampleur, c'est pas 6 mois, c'est pas 1 an. Alors, ça n'est pas une surprise, mais quand on le vit soi-même, ça peut sembler extrêmement lent et long. Le deuxième point, c'est qu'au fur et à mesure de la médiatisation, parce qu'il y a eu une médiatisation des salariés en situation d'aidance, eh bien, elle s'est accompagnée de fausses idées et d'une certaine façon de stigmatisation. Ces dernières années, moi, j'ai été frappée de voir que dans de nombreux sujets, la porte d'entrée, c'était l'absentéisme. La première question qui arrivait, c'était « Mais est-ce que les salariés en situation d'aidance sont plus absents que les autres ? Est-ce qu'ils arrivent plus en retard que les autres ?» Et puis, c'est arrivé à un moment, je crois il y a 2-3 ans, où au-delà de la stigmatisation, est survenue cette idée du déni de l'aidance. Alors, je cite l'expression comme telle, moi, elle me semble tout à fait ubuesque, mais est venue cette idée de déni de l'aidance. Pour des personnes qui vont écouter et qui vivent cette situation, qui l'ont vécue, rarement, ils n'étaient pas au courant ou ils n'avaient pas conscience qu'ils accompagnaient quelqu'un. Qu'ils ne mettaient pas le terme « d'aidant » sur cette situation, c'est autre chose. Mais de là à dire qu'il y avait un déni de conscience de cette expérience de vie, il y a quand même un fossé.
Gwenaëlle Tual a une explication à cette vision qui est parfois véhiculée des proches aidants.
C'est comme si on avait oublié que nous naissions tous comme des êtres vulnérables. Sous-entendu que celle ou celui qui est performant, c'est celle ou celui qui serait invulnérable et n'aurait pas de vulnérabilité intrinsèque. Je suis convaincue que nous naissons tous vulnérables et puis après nous avons des situations de vie qui nous fragilisent plus ou moins sur des aspects de santé, sur des aspects économiques, sur des aspects sociaux, familiaux, etc. Donc le fait de le voir par l'entrée de l'absentéisme, du retard, de la moindre productivité, je pense en fait est aussi révélateur de l'image qu'on s'est fabriquée d'un salarié, d'un travailleur, si on élargit le propos, qui, pour être performant, ne devrait surtout pas être vulnérable. Sauf que ça n'existe pas. Cet homme-là, cette femme-là n'existe pas.
Nous avons rencontré Sébastien. Sébastien est cadre dans une entreprise internationale. Le jour où un cancer a été diagnostiqué chez son fils, tout a changé. Et son quotidien, aussi bien personnel que professionnel, a dû être adapté.
Il y a vraiment eu plusieurs phases. La première phase, bien sûr, c'est celle du moment où... où arrive le diagnostic, c'est extrêmement soudain, c'est extrêmement violent, puisque la veille au soir, on était en famille en train de dîner, et le lendemain matin, on apprend, suite à un examen, que notre enfant a une maladie grave, et que donc on va s'engager dans un long parcours de soins de plusieurs mois, voire plusieurs années, avec une issue que l'on ne connaît pas forcément. Donc on arrête tous séances tenantes, et puis on se concentre nuit, jour... à être présent. Puis ensuite, on nous explique le parcours de soins, les étapes, les difficultés. Ça a un gros impact aussi sur la famille, y compris la fratrie, parce qu'on a 3 enfants, c'est notre petit dernier qui est tombé malade, et donc ses 2 grandes sœurs se sont retrouvées du jour au lendemain aidantes, elles aussi. Mais en plus, avec papa et maman qui avaient la tête complètement à autre chose. Et je crois que la notion d'aidant dans une fratrie, c'est quelque chose qui est passé sous silence, peut-être qui est peut-être plus à l'ombre, moins dans les feux de la lumière. Mais il y a une vraie souffrance et beaucoup d'associations l'ont compris d'ailleurs, parce qu'elles se focalisent aussi sur l'aide de la fratrie. Voilà, donc ensuite, d'un point de vue professionnel, on a tout arrêté avec mon épouse. On s'est retrouvé au début en arrêt maladie, parce que le choc était tellement clé qu'on était incapable de mettre une idée derrière l'autre. On avait déjà du mal à mettre un pied devant l'autre, donc c'était impensable de faire autrement.
Passé le choc, ce sont alors les soins qui démarrent et l'organisation qui se met en place pour accompagner le fils de Sébastien.
Quelques heures ou quelques jours après, le traitement a commencé. On s'est retrouvé embarqué dans ce système avec des soignants qui ont été juste fantastiques. Et puis, petit à petit, accompagner le quotidien, la nuit, les jours. Ça a été la promesse que l'on avait faite à notre fils, qu'il ne serait jamais tout seul. Et on a eu la chance, grâce à nos employeurs, de pouvoir le faire. Grâce au système français aussi, je crois qu'il faut le dire. Mais ça a été un élément absolument clé pour sécuriser notre enfant. Parce que la première question qu'il nous a dit, enfin c'est pas une question, c'est une affirmation, c'est ne me laissez pas tout seul. Et on lui a dit, on lui a promis droit dans les yeux, on ne te laissera pas tout seul. Et pendant 18 mois de traitement, il n'a jamais été une seconde tout seul.
L'employeur de Sébastien a à cœur de l'aider.
J'ai la chance d'avoir eu des collègues et une RH qui se sont dit, mais finalement, comment on peut aider Sébastien ? Et ils se sont positionnés sur 2 axes, qui sont d'une simplicité incroyable, mais d'une valeur inestimable. La première chose, c'est qu'ils se sont dit, il va avoir besoin de temps. Alors, ce qui s'est mis en place, c'est des dons de jours de congé. Donc aujourd'hui, mes collègues m'avaient donné des jours de congé, et l'entreprise a abondé. Ce qui fait qu'on s'était pas parlé, ils ne le savaient pas, mais ça, ça m'a permis, au moment où, quelques semaines après le diagnostic, je suis revenu travailler, de pouvoir tenir la promesse faite à notre fils d'être toujours à ses côtés. C'est quand on récupère plusieurs dizaines de jours de congé, bah, à chaque examen, à chaque grosse période d'hospitalisation, on était là. Voilà, et puis à côté de ça, ils se sont positionnés sur un sujet un petit peu plus humain, ils m'ont dit « Mais ton fils, qu'est-ce qu'il aime ?» Alors j'ai dit « Bah, c'est un petit garçon, il a 6 ans, ce qu'il aime, c'est les voitures et la police. » Alors, ils ont appelé le commissariat de police de mon domicile, et voilà ce qui se passe chez un de vos administrés. Et un jour, mon téléphone a sonné. Alors, j'étais pas super serein quand le commandant de police s'est présenté. Je me suis demandé qu'est-ce que j'avais fait, si j'avais roulé un peu trop vite. Mais c'est juste pour nous inviter à visiter, en fait, le commissariat du village, enfin de la ville. C'est tout bête, mais le gamin, il avait des yeux. Et quand je suis retourné à l'hôpital, je lui ai dit, tu sais, la prochaine fois que tu sors, t'es invité à visiter le commissariat. Pour lui, c'était un objectif de fou, quoi. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que cette fameuse RH et mon management local, s'en dit pas plus que le petit garçon, il aime les voitures. Ils ont écrit à tous les RH partout dans le monde. On est un groupe présent sur tous les continents. Et ils ont dit, si vous voulez faire plaisir, vous pouvez envoyer une petite voiture à cette adresse, une petite voiture de police. Et pendant les 3 premiers mois de traitement, tous les jours, que ce soit à la maison, quand notre fils était là, ou quand il était à l'hôpital, on les lui amenait. Le facteur sonnait, on avait un paquet, ou deux, ou trois, qui arrivaient, avec des petites voitures des quatre coins de la planète. Des petites voitures de police. Il a une collection qui doit faire 300 voitures maintenant, qui garde au plus profond de son cœur, et nous aussi. On a acheté une petite carte, vous savez, les cartes du monde à gratter. Puis chaque fois qu'on avait une voiture qui arrivait d'un nouveau pays, on grattait, et puis on découvrait. Puis il était à l'hôpital, lui, puis on regardait sur YouTube des vidéos du pays, de la police locale. Et le gamin, pendant ce temps-là, bah, il avançait, quoi. Il pensait plus à sa chimio, il pensait plus à ses nausées. Il se voyait policier à New York, à Buenos Aires, ou je ne sais où, quoi. Ça part de deux questions simples, hein. De quoi ont-ils besoin et qu'est-ce qu'il aime? Ça a une portée bien au-delà de ça. Voilà, et puis bah, le temps passant, j'ai repris le travail. Mon employeur a eu la gentillesse de me permettre d'être extrêmement flexible. C'était très important de garder un pied dans le monde professionnel, même si, en fait, j'étais probablement à 20% de mes capacités intellectuelles, mon cerveau étant pris sur autre chose. Mais voilà, puis aujourd'hui, c'est le retour à la normale. On est sur des rythmes d'examen dits de contrôle, donc qui ont lieu tous les 3 mois. Mais bon, ça, c'est un peu comme quand vous voulez emmener votre enfant chez le dentiste ou chez... Voilà, vous avez des rendez-vous, alors... C'est à l'hôpital, on choisit pas toujours les horaires. Mais c'est pas grave, on s'arrange.
Pour Gwenaël Tual, la notion de temps fait partie des choses primordiales pour les proches aidants. Elle évoque aussi la vigilance permanente dont ils font preuve.
Il y a effectivement un nuancier des situations, très clairement, donc ça, il faut le garder à l'esprit, c'est important pour pas tomber dans la caricature. Parmi les éléments qui sont des éléments communs, c'est cet élément de vigilance permanente. Pour un certain nombre qui vont écouter, le rapport au téléphone, notamment de savoir si tel service, si tel professionnel va appeler, enfin, c'est quelque chose ça, qui est vécu au quotidien à plusieurs reprises. Donc, le quotidien, c'est un élément bien souvent de vigilance permanente, et c'est bien souvent un sujet de conciliation qui vire à un sujet d'accumulation. Souvent, sur le sujet, on parle de conciliation vie professionnelle et vie privée. Et quand on utilise le terme conciliation, on a l'impression qu'on a deux briques qui vont s'emboîter, se jointer l'une dans l'autre, et que finalement, les deux vont constituer un plus grand tout. Et en fait, on se rend compte d'expérience que c'est plutôt une accumulation. Et que donc, un des enjeux est notamment par rapport à l'organisation et la gestion du temps. Le temps est de se sentir en sécurité pour pouvoir organiser ce temps de façon sereine, ou en tout cas d'essayer que ce soit de façon le plus sereine possible.
Notre troisième invité, Bruno Vialard, est directeur talent et culture chez Altis. Comme Gwenaël Tual, il pense qu'il ne faut pas tomber dans les généralités et qu'il est essentiel d'écouter les besoins propres à chaque proche aidant.
Je pense qu'il faut faire une analyse complète de la situation et des besoins de la personne, et chaque personne est différente. C'est pour ça que c'est assez compliqué, et que l'écoute, et la compréhension, l'empathie, tout ça, c'est des mots qui sont ultra, ultra importants pour quelqu'un qui est aidant.
De son point de vue, l'humanité de l'entreprise face à une collaboratrice ou un collaborateur aidant, dès le départ, permet d'instaurer la confiance, mais aussi de proposer les dispositifs les plus adaptés.
D'abord, il faut beaucoup d'humilité et c'est important d'avoir pas mal d'empathie, parce qu'il faut discuter, je pense, avec le collaborateur ou la collaboratrice qui se dit aidant pour comprendre les besoins spécifiques en tant qu'aidant et d'envisager évidemment des solutions, je dirais, de flexibilité, à la fois de flexibilité, évidemment, qu'il faut regarder avec le management des horaires adaptés, par exemple, du télétravail, etc. évidemment, toujours sous le coup de la confidentialité. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important pour les aidants. Souvent, les personnes qui sont aidantes ont du mal à le dire. Et je pense qu'une des clés, c'est la confidentialité. C'est très important. Moi, où je travaille plus, c'est sur le télétravail avec la possibilité, dès lors qu'on est aidant, de déroger aux règles de l'accord de télétravail. C'est-à-dire que normalement, l'accord, c'est 2 jours de télétravail par semaine, 1 semaine sur 2 et 3 jours la semaine d'après, avec un maximum de 10 jours. Là, d'abord, on offre 2 jours de télétravail et surtout, on peut les mettre sur 1 semaine complète parce que le temps est très important, me semble-t-il, pour les aidants.
Une fois les besoins des collaboratrices et collaborateurs aidants exprimés et la flexibilité mise en place au niveau RH, Bruno Vialard les oriente en complément vers des solutions ou des services proposés par son entreprise.
Moi, j'ai une conversation en tant que DRH pour l'entreprise, mais j'ai surtout une assistante sociale parce que le regard extérieur à l'entreprise, je pense qu'il est essentiel pour la confidentialité, mais pas que. Et donc, on a une assistante sociale à domicile et on a aussi ce qu'on appelle Alpetis Formi, qui est une carte 24-24 pour les personnes justement qui ont des vulnérabilités. C'est les aidants, mais pas que. Et donc, ils peuvent appeler autant que faire se peut. Et là, ils ont des gens très bienveillants, avec la bonne posture, etc., qui les écoutent et qui essayent de les aider.
Ils n'hésitent pas non plus à lancer des initiatives supplémentaires.
On a fait une expérience en mars 2023 avec l'entreprise Marguerite. Je ne sais pas si vous connaissez Marguerite, c'est une entreprise spécialisée en care management. Elle accompagne notamment et elle propose aux personnes fragiles et à leurs aidants une approche plus qualitative et individualisée pour les aidants. C'est une belle entreprise. Alors évidemment, le coaching est payant, mais on a souhaité nous le prendre en charge pour 10 collaborateurs qui étaient aidants et qui s'étaient déclarés. Et pendant 6 mois, ils ont eu de manière gratuite l'aide de cette société qui est une société externe. C'est souvent bien d'avoir un extérieur aussi, qui est spécialisé dans l'approche des aidants, à la fois pour, par exemple, aller chercher des financements, proposer tout ce qui existe, parce que souvent, on est démuni, je pense, en tant qu'aidant.
On est démuni en tant qu'aidant, et pour Gwenaëlle Tual, on n'a pas forcément accès au même dispositif selon qu'on travaille pour une petite ou une grande organisation. Et la balance ne pèse pas du côté des petites et moyennes structures.
Il y a des éléments de dialogue sur lesquels travaillent les entreprises de manière générale, mais les réponses ne sont pas les mêmes selon les tailles des entreprises. Et là, il y a des sacrées différences. La plupart des sujets qui ont été évoqués ces dernières années concernent les grandes entreprises. Tout le monde, tout particulièrement dans les toutes petites structures et du côté des indépendants, n'a pas, par exemple, de DRH, n'a pas d'assistants sociaux intrastructures, etc., etc. Donc là, en termes de réponse, il y a des disparités majeures. Et nous, à l'association, effectivement, on avait appelé à ce que notamment les petites et moyennes structures soient considérées, plus considérées, parce qu'il n'est pas vrai que, par rapport à un certain nombre de dispositifs que nous entendons, que tous les salariés puissent en bénéficier.
Sébastien, dans son parcours d'aidant, s'est effectivement rendu compte des disparités en fonction de la situation professionnelle de chacun.
Je reconnais que j'ai eu une chance incroyable. Voilà, et à l'inverse, on a vécu des choses où on a vu des enfants seuls, justement, parce que l'emploi de maman ou de papa ne permettait pas cette présence. Donc on a vu des enfants partir à des examens seuls dans la main d'une aide-soignante. Et d'ailleurs, toutes ces aides-soignantes, tout ce personnel-là est juste mais d'une humanité et d'un soutien qu'il faut absolument souligner. Mon épouse n'a pas repris le travail tout de suite, donc il y a une aide versé par l'État, dont j'ai oublié le nom, qui est de quelques centaines d'euros par mois. Voilà, donc il est vrai que je m'étais renseigné, par exemple, auprès de la mutuelle, en disant, mais est-ce qu'il y a des prises en charge, quelque chose? Et non, et quand c'est un enfant qui est malade, que c'est pas la personne qui souscrit, il n'y a pas grand-chose de prise en charge. Alors, la sécurité sociale prend en charge beaucoup de choses autour du soin, hein, évidemment, l'enfant est pris en charge à 100%, et on a la chance de ne devoir débourser pas un centime pour les soins. Mais il y a un sujet perte de revenus, en fait, qui ne nous a pas spécialement impacté, mais qui est un vrai sujet et qui peut avoir des conséquences. Enfin, il y a des parents qui retournent travailler parce que l'aide d'enfant malade ou enfant handicapé, je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne sais pas, c'est peut-être 300, 400 euros par mois. Ça ne me permet pas de vivre. On a eu la chance en plus d'habiter à quelques kilomètres de l'hôpital, donc l'adulte qui ne restait pas avec l'enfant pouvait rentrer avec ses sœurs le soir. Il y en a d'autres qui viennent de plusieurs centaines de kilomètres. Et là, c'est quoi? Faut payer un hôtel à côté, quoi, si on veut être à côté. Donc, heureusement, il y a des associations qui offrent des appartements. Voilà, mais c'est, pour moi, c'est sur ce sujet-là, autour de probablement de l'aide financière et logistique, qu'il y a des progrès à faire.
L'aspect financier, c'est généralement un enjeu supplémentaire pour les proches aidants. Et souvent, c'est un casse-tête. Nous avons demandé à Gwenaëlle Tual ce à quoi les collaborateurs aidants ont droit et comment ils peuvent être renseignés le mieux possible.
de façon factuelle. Il existe des congés légaux et qui permettent effectivement de pouvoir suspendre son contrat de travail à un moment et donc d'avoir du temps, et ce temps, sous certaines conditions, peut être indemnisé. Ce sont des congés légaux, c'est-à-dire qu'ils se posent au même titre que d'autres congés avec leurs propres conditions, leurs propres processus, formulaires à remplir. Et puis, au-delà de cette dimension-là, il y a les acteurs de l'entreprise, mais l'entreprise, elle est au sein d'un village, d'une ville, d'un département, et il y a donc tous les acteurs qui gravitent autour de l'entreprise et qui sont des formidables sources d'informations aussi pour pouvoir voir quels seraient les dispositifs activables, comment effectivement activer ces dispositifs qui permettraient de pouvoir avoir telle forme de temps, que ce soit sur des congés, que ce soit sur du don de RTT, que ce soit sur du télétravail. Je pense par exemple au CCAS de la ville, je pense aux différentes associations qui vont être dans le village, dans la ville, je pense aux réseaux, il y a parfois des métropoles aidantes avec des réseaux complètement dédiés selon les territoires.
Les RH peuvent orienter les collaboratrices et les collaborateurs aidants vers ces structures. À l'échelle de l'entreprise, ils ont des clés à leur disposition en première intention.
Si on récapitule les principaux congés, donc le congé de proche aidant, le congé de solidarité familiale ou d'accompagnement de proches en fin de vie, le congé de présence parentale, le don de jours qu'on a évoqué, certains mécanismes de loi comme les motifs de refus de travail de nuit, il y a des articles spécifiques là-dessus, et puis après il va y avoir les dispositifs intra-entreprise comme le télétravail, l'aménagement des horaires et des lieux de travail, il peut y avoir des dispositifs particuliers, et donc vous pouvez aussi avoir par exemple votre mutuelle, votre prévoyance, qui peut venir compléter l'effort, soit en proposant des dispositifs adaptés, soit en proposant des compléments aux indemnisations, soit en proposant des fonds auxquels vous pouvez faire appel s'il y a besoin d'une aide financière sur tel et tel aspect.
Finalement, les portes auxquelles frapper sont nombreuses, pour peu que les collaborateurs soient accompagnés.
En fait, ça ne concerne que, on va dire, la partie travail. Il y a d'autres dispositifs qui existent. Il y a une myriade de dispositifs. Et cette myriade de dispositifs, elle ressemble un peu à un millefeuille à l'heure actuelle, qui n'est pas forcément ni lisible, ni visible, ni très compréhensible. Donc, effectivement, beaucoup de proches nous disent que c'est un parcours du combattant, en fait. Un, que d'avoir l'information, et ensuite, une fois qu'il y a l'information, de savoir comment activer le dispositif en question.
Nous nous sommes demandé si l'entreprise, en plus d'accompagner les collaboratrices et les collaborateurs aidants avec les moyens à leur disposition, pouvait faire davantage. Bruno Vialard nous a répondu par l'affirmative et a souhaité revenir sur la notion de temps si importante pour les aidants.
Les aidants, ils souffrent. Ils souffrent de voir leurs parents ou leurs descendants, etc., ou en situation de grande vulnérabilité, mais physiquement eux aussi, ça mange sur tout, hein, sur la vie, et peut-être avoir un peu de temps pour eux aussi, parce que c'est ce qui va leur manquer aussi. On travaille, nous, avec des horaires variables, mais on peut encore plus variabiliser. Si une personne elle nous dit « bah j'ai besoin de commencer à 11h parce que je suis plus libre l'après-midi », on va s'adapter, bien évidemment. Je pense que la flexibilité, elle doit être totale pour ces personnes-là. Après, on est malheureusement toujours obligé dans une entreprise de border un minimum, mais on le borde le moins possible dans cette situation qui est une situation qui touche beaucoup de personnes, hein, je pense beaucoup, beaucoup de personnes. Je suis assez convaincu que les seules personnes qui se sont liées dans, c'est parce qu'on a communiqué pas mal là-dessus et qu'il y en a sûrement beaucoup plus statistiquement, beaucoup plus.
Pour Gwenaël Tual, il y a les besoins majeurs auxquels il faut répondre, et puis il y a le rôle du travail dans la vie des aidants qu'il ne faut pas oublier.
Je crois que sur les besoins, il faut revenir aux bases. À mon sens, il y en a trois. C'est se sentir en sécurité pour évoquer sa situation. Le deuxième élément, on l'a évoqué, c'est le temps. C'est le temps et la souplesse. Le troisième, c'est une meilleure compréhension de l'ensemble du management ou des encadrants. Nous avons des témoignages, des questions, puisque nous répondons à un certain nombre de questions de la part des salariés qui nous disent qu'effectivement, il y a eu des dialogues avec leurs collègues, leurs responsables d'encadrement, leurs DRH, le cas échéant, qui ont été de bons dialogues, qu'il y a eu des dispositifs qui ont été activés et qu'effectivement, ça a nourri aussi une forme de fierté d'appartenance. Ça a permis de maintenir des temps au travail, parce que le travail, ça n'est pas juste une histoire d'argent, c'est aussi un espace de vie, c'est aussi un espace où on socialise avec d'autres. Et que ça, c'est extrêmement important. Donc, ça a permis de lutter aussi contre une forme d'isolement social.
Et le mot de la fin, nous avons voulu le laisser à Sébastien, qui rend hommage à la manière dont son entreprise l'a accompagné.
Moi, je tire un chapeau, je tire mon chapeau à mes collègues, à mon management, qui ont eu l'intelligence du cœur de comprendre dans la situation dans laquelle j'étais tombé, alors que le vendredi d'avant, on parlait budget et business plan, hein, de comprendre et d'agir de manière parfaite. Voilà. Et un grand merci à eux.
On se retrouve bientôt dans Mieux, le podcast qui interroge le monde du travail.